France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans Un monde à portée de main, le beau roman que Mélisse de Kerangal fit paraître en 2018, je lis ceci. Le trompe-l'œil est la rencontre d'une peinture et d'un regard. Il est conçu pour un point de vue particulier et se définit par l'effet qu'il est censé produire. Mais que se passe-t-il alors une fois la tromperie dévoilée? Quel est l'avenir de cette illusion? Et que voit l'œil trompé, je veux dire le regard perdu par les feintes du trompe-l'œil, une fois que la réalité l'a détrompé? Toutes ces questions, on se les pose en visitant l'exposition qui se tient jusqu'au 2 mars au musée Marmottan à Paris, sur le trompe-l'œil justement. Nous sommes au milieu d'une galerie étourdissante de vanités, de natures mortes et d'objets transfigurés, posés sous notre regard par les illusionnistes de la réalité de la Renaissance à nos jours. Nous y sommes et l'on se demande comment on va faire pour camoufler notre propre impuissance à ne plus distinguer le vrai du faux. Faux, feinte, ruse, camouflage et piège à regard, oui, sans doute, mais d'abord et avant tout, le désir d'y aller voir de près, l'attention aux détails et cette minutie au travail dans laquelle s'abolit la frontière entre l'art et l'artisanat. Avec Mélisse de Kerangal et Delphine Murana-Burlot, bientôt rejointes par notre sociétaire du jour, Sophie Crasse, allons y voir. Entrons dans la carrière, celle de Carrare, où nous attend le blanc du marbre que nous présente Francesca Nicoli.
C'est une expérience unique qu'on doit faire au moins une fois dans la vie. De venir travailler la pierre ici, de venir connaître les montagnes, de venir toucher le marbre de Carrare. Mon défi, c'est d'inviter ces génies de l'art contemporain à faire des marbres. Alors, si on veut que le marbre fasse et s'adapte à notre contemporanéité, on doit prétendre que le marbre se porte de façon très différente par rapport au passé.
Mélisse de Kerangal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine à la tête d'une œuvre puissante et généreuse qui accorde à l'acte de voir et de décrire une place de choix. Je signale parmi vos derniers textes un très beau récit dans la collection Fléchette, où nous voisinons d'ailleurs, La valise noire. Dans votre dernier roman, Jour de ressac, paru chez Vertical en 2024, vous suivez la houle de la mémoire et d'une intrigue policière et de la mer que vous connaissez si bien, mais l'héroïne d'un monde à portée de main, Paula Kartz, caressait plutôt l'onde des marbres ou des écailles de tortues. Et j'ai l'impression à vous lire que c'est également vertigineux.
Ah oui, c'est une héroïne qui est soudain aux prises avec l'incertitude, l'illusion, la fabrique de l'illusion, la question du trompe-l'œil, qui est une question quand même assez sophistiquée, hein, oui. Qui met en place justement une technique importante, la virtuosité, l'ingéniosité, et puis en fait cette histoire d'ambivalence aussi qui m'intéressait beaucoup. Et cette épopée de Paula jusque dans le fac-similé de Lascaux 4, où elle se met à la place des peintres du Magdalénien pour refaire un peu les fresques pariétales de la caverne de Lascaux. Voilà, m'a tenue passionnée longtemps.
On va parler de tout ça. Bonjour Delphine Morana-Burlot.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire de l'art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du patrimoine. Mais vous avez aussi une pratique de restauratrice de peinture. D'une certaine manière, Paula Kartz, c'est vous, ça pourrait pourrait être vous. On vous doit un très beau livre paru en 2012 au Centre Jean Bérard de Naples, « Fabriquer l'antique, les contrefaçons de peinture murale antique au XVIIIe siècle ». Et on voit bien que dans le roman de Mélisse de Kerangal, justement, ce rapport au vrai, au faux, à l'artifice, à l'art véritable, bah, c'est celui, d'une certaine manière, de ce peuple de faussaires. Ça, c'est une expression de Mélisse de Kerangal, mais qui correspond aussi bien à ce que vous avez suivi et qui peignait l'antique au XVIIIe siècle.
Oui, tout à fait. Ces peintres du XVIIIe qui ont découvert Pompéi se sont mis à le copier et pour certains l'inventer afin d'en faire des petites pièces qui puissent être achetées par les touristes du Grand Tour.
Alors, on va commencer par une pièce, justement, qu'on peut pas acheter, mais qu'on peut voir à l'exposition Marmottan. Vous l'avez choisi, l'une et l'autre, c'est Chemise 1 Cardin, datée de 1985. C'est la première version de 6 sculptures produites par Judd Nelson, prenant pour modèle une chemise en coton,
sauf qu'elle est en marbre de Carrare, précisément.
Et oui.
Et alors, ça donne l'occasion de rappeler que, justement, ce qui est très important, je trouve, dans le trompe-l'œil, c'est que c'est une œuvre qui se caractérise par l'effet qu'elle produit. Et en fait, c'est la seule œuvre de cette catégorie-là. Et là, par exemple,
Qu'est-ce que ça produit?
Donc, on est face à une chemise qui est à l'image, à une chemise qui est pliée comme le sont les chemises dans les rayonnages. On voit donc 3 boutons, le col repassé, quelques plis quand même.
Un peu drapé,
et puis le bout d'une poche. Et en fait, on a vraiment le sentiment, la sensation, c'est-à-dire que nos sens sont réellement trompés, mais on a le sentiment que cette chemise, elle est bien en coton blanc. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans cette œuvre, c'est qu'immédiatement, elle appelle le test tactile. C'est-à-dire qu'on ne peut s'empêcher, on se rapproche et on tend la main, on va toucher. Comme si justement le toucher était une preuve qui était plus forte que celle de l'œil et que par le toucher on pouvait établir la réalité ou non de cette chemise. Alors qui est aussi un bien de consommation. Enfin, je pense que pour Judd Nelson, il y a aussi l'idée que là, on est dans des séries, c'est des objets manufacturés qui sont des objets de consommation. Il y a un regard aussi là-dessus. Mais pour moi, le fait qu'il ait choisi pour cette sculpture en trompe-l'œil de le marbre de Carrare, j'aimais bien cette idée parce qu'il fait signe justement à l'antique.
Et c'est
ce que disait Delphine. Hein.
Ben oui, Delphine, justement, d'abord, il y a quand même la virtuosité technique.
Oui. Hein, oui,
il faut des instruments de très haute précision pour donner le rendu, par exemple, des boutons de nacre.
Oui.
Et ça, c'est évidemment le défi de l'histoire de l'art face au marbre. Hein.
Oui, il y a une très grande habileté dans la reproduction des coutures, de la chemise, presque de la trame du tissu. Et effectivement, ça fait penser à des œuvres plus anciennes. Il y en a une qui est dans l'exposition, c'est l'œuvre de Jean-Antoine Houdon, La Grive morte.
Ah oui,
cette grive.
1775,
oui, c'est ça.
Oui. Et qui fait des plumes avec du marbre.
Qui fait des plumes avec du marbre, exactement.
Mais aux origines de la peinture romaine, que vous avez étudiée et que vos faussaires ont aussi étudiée, l'opération inverse, finalement, c'est-à-dire imiter les plaques de marbre.
Avec la peinture. Effectivement, aux origines de la peinture antique, il y a l'imitation de plaquage de marbre avec du stuc. Donc on employait aussi le relief pour parfaire l'illusion. Tout était dans la reproduction de la couleur du marbre, des taches que l'on peut voir sur la pierre. Et effectivement, c'est comme ça que tout a commencé.
C'est d'ailleurs une passion de peintre que d'imiter les veines du marbre. Et d'ailleurs, quand on retourne, par exemple, un Van Eyck, c'est ce qu'on voit, non ?
Oui, effectivement, dans le tableau « La Vierge au chancelier Rollin », qui a été présenté au Louvre l'année dernière dans une exposition particulière sur cette œuvre. Ça a été l'occasion de restaurer l'œuvre et au revers, on s'est aperçu qu'il y avait cette représentation d'un marbre vert ou peut-être la représentation du cosmos. On ne sait pas vraiment comment interpréter ce marbre moucheté qui se trouve derrière cette œuvre.
Oui, parce qu'on comprend qu'il y a plus que de la virtuosité. Il y a la question peut-être du rythme, Mélisse de Kerangal. Je vous lis, c'est justement dans votre roman. Mi-novembre, on attaque les marbres. Carrare, Grand Antique, Labrador, Henriette Blonde, Fleur de Péché ou Griotte d'Italie. Et là encore, je choisirai en temps voulu. L'énumération de ces noms est bien autre chose qu'une table des matières. La femme prend à les prononcer un plaisir visible et sa voix ondule dans la pièce comme un chant chamanique dont Paula ne capte rien sinon le rythme.
Oui, la question du rythme, notamment donc des veines et la façon dont elles se dessinent sur la pierre, c'est la grande question de toute la peinture en décor, enfin de tous les peintres qui se donnent pour métier d'abord peut-être de reproduire les surfaces du monde et parmi elles celles des marbres et donc les veines, les striures et donc de les identifier et donc de comprendre qu'il n'y a pas un marbre mais qu'il y en a par exemple des dizaines et des dizaines, là j'en cite quelques-uns mais la liste est très longue et c'est vrai que les noms sont absolument envoûtants. Dans cette chemise, ce que je trouvais aussi très beau. Alors, on peut parler d'une forme de rythme hein, dans les ondulations, dans les plis, dans la ponctuation avec les trois petits boutons. Ce qui est aussi assez fort, je trouve, dans cette œuvre, c'est que c'est l'imitation du tissu par la pierre, en oui. fait, donc de ce qui est léger par de ce qui est beaucoup plus lourd, de ce qui est aérien par ce qui est plus dense. Il y a une forme, il y a un jeu presque supplémentaire, je trouve, dans cette œuvre. Et la question, pour moi, de la réalité, enfin la question que nous pose en fait cette chemise de John Nelson, elle rejoint un peu toutes les questions que se posent les peintres en décor et ceux qui justement imitent les marbres, les bois, les corniches.
Ils utilisent d'ailleurs de la poudre de marbre.
Oui, hein, oui, oui. C'est de la poudre de marbre mélangée à de la chaux ouais. qui, lors du séchage de l'enduit, devient aussi dure que le marbre. Et il y a une opération aussi très importante dans cette peinture romaine qui est le passage de la finition, c'est-à-dire le lissage de la surface pour obtenir un poli, un satiné qu'on ne retrouve que sur le marbre.
Alors, un des premiers qui a parlé de trompe-l'œil, si l'on en croit d'ailleurs le parcours de l'exposition, c'est Louis-Léopold Boilly, justement. On en voit quelques-unes de ses réalisations. Écoutez ce que Sacha Guitry en disait en 1954.
Nous voilà réunis devant une œuvre rare, quelque peu singulière. Certes, c'est un tableau, un ravissant tableau, mais avant tout, c'est un trompe-l'œil. Or, les trompe-l'œil, pour bien des gens, ne sont pas considérés comme de la peinture. Et ce nom qu'on leur donne acquiert un sens péjoratif qui les distingue et qui, quelquefois, les déclasse. Il faut avouer, d'ailleurs, qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de les accrocher au mur parmi d'autres tableaux. Il convient donc de les isoler si l'on veut qu'ils conservent leurs qualités essentielles. L'homme qui fait un trompe-l'œil se propose, en effet, de nous faire croire que les objets qu'il représente sont accrochés à une porte ou fixés au mur par des clous, des épingles ou bien par des punaises. Et, censément, ce sont ces objets eux-mêmes que vous regardez. Et ils doivent tromper votre œil à tel point que vous éprouvez le besoin de vous approcher de la toile et d'y porter même la main pour vous assurer qu'ils sont peints. Ce sont de véritables tours de force qui exigent un talent infini, mais encore une fois, ce n'est pas de la peinture. Et parce qu'ils sont destinés à tromper, ils ne sont pas pris au sérieux, alors que certains d'entre eux sont pourtant des chefs-d'œuvre. Celui-ci, c'est un grand peintre qui l'a fait. C'est Boilly. Et il est l'auteur de 23 trompe-l'œil connus.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Alors, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art? Ça, on peut évidemment en discuter, Delphine Morana-Burlot, mais ce qu'on entend aussi dans cette description, c'est l'importance de l'accrochage et les clous, les épingles, tout cela au mur. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans cette exposition au musée Marmottan, c'est tous ces objets qui sont comme épinglés, des natures mortes, des vanités, des boîtes, c'est presque obsessionnel en fait.
Oui. Il y a beaucoup d'estampes aussi, de dessins qui sont représentés derrière des vitres brisées. Et là encore, je pense qu'il y a un exercice de la virtuosité du peintre de montrer toutes ces matières différentes et aussi nous faire réfléchir à la finitude de la peinture. Alors c'est aussi une époque, on est au 18e, c'est aussi une époque où on réfléchit à la manière où on peut faire durer la peinture plus longtemps, la rendre éternelle.
Oui.
Et l'un des moyens, ce serait d'utiliser de nouvelles techniques comme la céramique qui permettrait donc de garder l'image.
Et alors avec la céramique, on fait plein d'objets et des objets du quotidien. C'est aussi le rapport justement entre la rareté, la virtuosité et le banal finalement.
Voilà. Mmh.
Il y a plein d'images comme ça, et au fond, ce qui vous a intéressé, Mélisse de Kerangal, c'est le rapport à l'objet. Un objet transfiguré.
Oui,
beaucoup d'œuvres. Hein,
ce qui est assez fascinant, c'est que la peinture de trompe-l'œil, c'est un monde de représentation des objets dans leur matérialité, dans leur physique, avec une attention très forte à la matière, aux détails de la matière. Ça, je trouve que c'est très important parce que finalement. Le trompe-l'œil ne s'est pas attaché à représenter la figure humaine, hein, et même la vie. Toutes les figures vivantes sont exclues de ce champ-là. C'est plutôt justement les objets et leur disposition et la manière dont c'est un accès au monde, pour moi, au monde des choses.
Par exemple mais là, Delphine Morana-Burlot, je vois sur un détail de la chambre des masques de la maison d'Auguste sur le Palatin, que vous connaissez fort bien, on voit des oiseaux, on voit un petit récipient, qu'est-ce que c'est sur un rebord? Là, c'est vraiment un trompe-l'œil, en fait.
Là, c'est vraiment un trompe-l'œil. Il y a comme ça, dans la maison d'Auguste, beaucoup de petites natures mortes qui sont des détails, comme cette coupelle de verre qui contient deux petites fioles posées sur une corniche en haut d'un mur qui, lui-même, est un mur de décor de théâtre. Donc, on est dans une mise en abîme, on est dans la représentation déjà du fictif, du faux, et on a la représentation de cette scène de théâtre avec des portes qui s'ouvrent vers les coulisses.
Et là, quelqu'un comme le peintre roumain Daniel Spoerry, qui évoquait Pompéi comme la plus célèbre fixation de l'histoire, en fait quelque chose, Mélisse de Kerangal, qu'on voit aussi à Marmottan, une sorte de piège à regard dans sa topographie anecdotée du hasard qui vous a arrêté.
Ah oui, je trouve que c'est une œuvre extrêmement troublante qui représente donc sur un plateau carré donc des débris, des objets, donc des verres, un cendrier, des cendres. Alors évidemment tout ça, des miettes de pain, tout ce qui est un peu de l'ordre de des restes, hein, des reliefs aussi un peu de la vie, des
conversales, des mégots, boîte à fromage vide. Oui.
Et ça c'est vraiment le lien à la fois avec cette œuvre. Elle m'intéresse parce qu'elle représente un temps d'après, quelque chose a eu lieu, et ça rejoue pour moi un peu l'idée de une espèce d'archéologie des petites ruines, des petites ruines du quotidien, mais aussi une forme de, elle dispose, hein. Il y a l'idée, je trouve, dans les trompe-l'œil, tout un travail sur la disposition des objets et la manière dont les objets se parlent entre eux, dont la manière dont ils réagissent entre eux, et ça, je trouve que ça accuse le fait que dans un trompe-l'œil, il y a évidemment pas que c'est pas une pure surface avec une virtuosité technique, on n'est pas que dans un espèce de savoir-faire extraordinaire, il y a aussi quelque chose à déchiffrer, une interprétation, un sens à trouver, et pour moi ce sont des œuvres extrêmement énigmatiques, et aussi, ça je trouve que c'est important de le dire, c'est que c'est une œuvre en deux temps, mais ça, c'est-à-dire que l'œil est trompé, et puis pour que l'œuvre existe, il faut qu'il se détrompe.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'un trompe-l'œil qui piège le regard jusqu'au bout, en fait, n'est qu'une idiotie. C'est un procédé technique totalement vain pour accéder à la, peut-être à la, au statut d'œuvre d'art, il faut que l'œuvre se dé, que le, l'œil soit détrompé. Et ça, je trouve que c'est assez fort comme, que, comme et, mécanisme du
regard. Et que cette œuvre ne soit pas périmée, en fait, par la désillusion oui. d'Delphine Murana-Burlot. C'est ça, la question, au fond. Mm. C'est que ça persiste après, la, justement, le, l'œil
oui.
trompé.
Il faut que le faux soit révélé et qu'on ouais. cherche ce qui a pu nous... nous prendre, enfin donner l'illusion. Donc on va se rapprocher de l'œuvre, on va peut-être toucher ouais. aussi, et on va tester cette, cette impression du réel qu'on a eue au départ.
Vous connaissez Bon Enfant ? Non ? Ah, c'est un groupe de rock 2024, ils chantent Trompe-l'œil, écoutez. Vous écoutez bien, allons-y voir sur France Culture et on parle de cet œil trompé ou détrompé d'ailleurs justement par le trompe-l'œil Delphine Murana-Burlot. Vous avez travaillé donc c'est ce livre Fabriquer l'antique, je le disais au début de l'émission, sur ces faussaires qui d'une certaine manière au XVIIIe siècle quand s'ouvrent Herculanum et Pompéi ben répondent à une demande extraordinaire et peut-être mieux même que les archéologues en fournissant aux amateurs, aux collectionneurs ce qu'ils ont envie de voir, c'est-à-dire des peintures murales notamment, et puis quelques peintures de chevalet. Il y en a un qui est extraordinaire, c'est Guerra. Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter un peu?
Oui, alors Giuseppe Guerra, il était peintre et il a travaillé à la cour de Naples et il a sans doute vu les véritables peintures de Pompéi. Et rapidement, il s'est installé à Rome pour fabriquer ses propres peintures de Pompéi qu'il vendait aux collectionneurs de passage à Rome en expliquant bien qu'il les avait obtenues clandestinement puisqu'évidemment, ses œuvres de Pompéi appartenaient au roi de Naples et n'étaient pas à vendre. Donc lui, il les vendait à Rome sous le manteau. Et un scandale a éclaté. Le roi de Naples s'est insurgé contre la vente de son patrimoine et il a envoyé un émissaire à Rome pour faire une enquête. Et très rapidement, il est apparu que ce peintre, Giuseppe Guerra, ne restaurait pas ses œuvres, mais les fabriquait. Et donc, les collectionneurs qui avaient acheté ses œuvres, des Français pour la plupart, ont été très déçus de savoir que les œuvres qu'ils chérissaient, qu'ils avaient emportées chez eux dans leur collection, n'étaient en fait que c'était des œuvres qui avaient été réalisées au XVIIIe siècle, mais non pas des œuvres antiques.
Certains sont plus que déçus, ils sont honteux. Même.
Ils sont honteux,
fous de rage, comme Winckelmann.
Winckelmann est fou de rage d'avoir été dupé. On pense même qu'il a publié des faux dans son Histoire de l'art dans l'Antiquité. Voilà, ça a fait un scandale extraordinaire, mais le Giuseppe Guerra n'a pas été condamné puisque ce n'était pas condamnable de duper ses collectionneurs.
Alors il y en a d'autres, il y a Léoni à Venise, il y a Puccini également. Mais ce qui est intéressant, c'est que à vous lire, on comprend très bien comment, au fond, le faussaire a toujours un coup d'avance sur le collectionneur parce que lui, d'abord, il connaît, et puis c'est un moment où de toute façon on découvre et il peut s'adapter au marché, à la demande, et il peut, au fond, combiner des motifs antiques avec les motifs contemporains qu'on a envie d'avoir sous les yeux.
Oui, c'est exactement ça. Il produit des œuvres à la demande, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va combiner des motifs antiques avec ce qu'on attend de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il va coller au plus près de l'image qu'on a de l'Antiquité à la période contemporaine. Et pas à l'Antiquité même.
Et oui, donc c'est pour ça que votre livre est un livre sur l'Antiquité rêvée, et c'est pour ça aussi, Mélisse de Kerangal, qu'au fond, bah, vous le savez, un faux nous plaira toujours davantage puisqu'il est fait pour nous. Donc il va, d'une certaine manière, anticiper sur nos réactions.
Oui, totalement s'adapter à notre regard. Alors moi, je pense pas mal à, dans ces histoires de faux, donc à mes histoires de facsimilés, de cavernes préhistoriques, en fait, parce que là, ce sont des entreprises d'État, en fait, qui fabriquent justement des faux.
Pas pour duper, là, pour le coup.
Pas pour duper, parce que justement, c'est une autre dimension, je pense, de du faux. En tout cas, c'est une dimension de connaissance qui, moi, m'intéresse énormément. Parce que Patrick l'a dit, c'est passé vite dans sa phrase, mais pour refaire. Et il faut connaître. Et c'est un peu ce que vous venez de dire à propos de Guerra, c'est-à-dire pour pouvoir faire ces peintures murales, il doit posséder d'une certaine manière à la fois la technique, mais aussi la connaissance profonde de ce qu'elles sont, de ce qu'elles étaient, pour pouvoir la refaire. Ça semble assez anodin, ça semble assez réel, en fait c'est fondamental. Et je voyais bien quand moi j'allais dans les ateliers des facsimilés du Périgord, on était dans des ateliers qui ressemblaient probablement un peu à ceux de la Renaissance, avec, si vous voulez, le peintre était aussi savant qu'un préhistorien. Le préhistorien qui enseignait à l'université pouvait lui-même devenir peintre. Vous voyez, les savoirs circulaient. Et pour moi, la question des trompe-l'œil, il y a la question de l'illusion, de l'ambigu, de l'ambiguïté, la question du faux que vous soulevez, mais il y a aussi cette question de la connaissance qui est très importante.
Et cette connaissance par l'œil et par la main, vous êtes restauratrice de peinture ancienne, on l'a dit, Delphine Murana-Burlot, vous êtes reconnue en Paula Karst, l'héroïne, on peut le dire quand même, du livre de Mélisse de Kerangal, Un monde à portée de main, en particulier sur la couleur.
Oui.
Parce que pour retrouver les couleurs anciennes, ça s'apprend pas vraiment, ça s'éprouve, non ?
Ça s'éprouve, ça s'apprend, mais c'est un savoir qui se transmet, par l'expérience, par la main, ça se transmet en atelier. Et puis il y a des choses qui sont pas forcément qu'on n'appréhende pas forcément de cette manière-là, Par exemple, une fois, pour reproduire un ciel bleu sur un tableau, la chef d'atelier m'avait dit « tu prends du blanc et du noir ».
Oui.
Et en mélangeant du blanc et du noir, j'ai obtenu exactement la couleur du ciel qui était sur la peinture, et alors que ça faisait
rien d'autre
que je cherchais
du blanc et du noir.
Voilà. Oui.
Oui, ça c'est quand même fascinant. Il y a plein d'exemples aussi.
Moi, j'étais assez fascinée par cette question des couleurs, justement, et dans leur... alors, encore une fois, l'espèce de matériologie auquel elle donne accès, notamment à une question de plafond bleu dans une chambre d'enfant qui fait l'objet d'un chapitre du livre. Et là, il y a toute l'histoire du bleu qu'on ramène de loin et qui a toujours, d'ailleurs, cette espèce de source minérale, en fait, qui est à l'œuvre dans ces toiles dont on vient de parler, c'est-à-dire cette poudre dont vous avez parlé.
Alors, on n'en a pas tout à fait terminé avec cette histoire de dévoilement, mais c'est peut-être la carte postale que nous envoie régulièrement Mathieu Pot-Bonneville qui va nous mettre sur la voie. Écoutez.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, qu'ils sont cons les oiseaux. Qu'ils sont cons les pauvres petits, aussi cons que les hommes, disent certains. D'autres affirment qu'ils le sont davantage. On peut entendre ces mots dans un étrange film d'animation que le dessinateur Chaval réalisa en 1965. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Intitulé « Les oiseaux sont des cons », ce poème graphique de Chaval semble relever de l'absurde, mais il n'est pas interdit d'y lire comme un écho du mythe d'origine de la peinture occidentale. D'après Pline, en effet, c'est pour avoir été picoré par des oiseaux que les raisins si réalistes peints par Zeuxis sont passés à la postérité. Avoir leurré des moineaux, les avoir pris au piège de la ressemblance, voilà le titre de gloire du premier des peintres. Cet épisode du picorage des raisins n'a pas seulement scellé le destin illusionniste de toute représentation picturale. Il a aussi précisé ce qui est attendu d'un véritable spectateur. Là où les piafs se laissent duper, les visiteurs de l'atelier de Zeuxis s'émerveillent d'autant plus de cette possible méprise qu'ils savent, eux, distinguer la représentation du modèle. Ils tirent plaisir de les trouver à la fois si proches et pourtant différents. C'est à s'y méprendre, on s'y croirait. On s'y croirait, c'est-à-dire que l'on n'y croit pas, contrairement à ces cons d'oiseaux. En l'affaire donc, les oiseaux ne sont donc pas seulement des cons, ils sont des cons indispensables à fonder par contraste ce regard à double foyer qui creuse notre expérience d'amateur de peinture. Ce regard perpétuellement renvoyé de la communauté de forme entre l'image et la chose à la conscience de leur écart. On s'y croirait, on n'y croit pas. Cette profondeur ne va pas sans une pointe de regret. Là où les oiseaux, écrit Chaval, chantent le bonheur de vivre sans comprendre, notre lucidité nous empêche de nous enfoncer dans les promesses de l'image. C'est la revanche des oiseaux, et on en trouve une splendide version dans un autre dessin animé. En 1949, Chuck Jones y met en scène pour la première fois l'oiseau Roadrunner. Vous savez, celui qui fait « bip bip ». Parmi les stratagèmes déployés en vain par le coyote pour le capturer, on compte dans ce premier épisode un gag que la série reprendra ensuite à plusieurs reprises. Sur le trajet que va emprunter l'oiseau, le coyote dispose une toile peinte qui figure une route, dans d'autres versions, un tunnel. Bip Bip arrive à toute vitesse, mais plutôt que de s'écraser sur le piège tendu, continue sa course sur la route peinte comme si elle était vraie et disparaît au fond du cadre. Le coyote déconcerté tente de lui emboîter le pas. Il recule de quelques pas, se met à courir et se fracasse, lui, contre l'image qu'il avait confectionnée, contre ce trompe-l'œil soudain revenu à ses deux dimensions. Au sens strict du terme, il tombe dans le panneau. Mais pas par naïveté. Au contraire. Si la voix de la peinture se refuse à lui, c'est qu'il est humain, trop humain, ce coyote. Empêtré dans ses machineries, tout pétri de ruses et de manigances, comptant sur le calcul plutôt que sur l'élan. Comme disait Jacques Lacan, qui a manqué sa vocation de dialoguiste de cartoon, dans certains cas, les non-dupes errent. Chaval, quant à lui, voit les choses ainsi. Peut-on faire le con sans être con? c'est beaucoup plus facile que de faire l'oiseau sans être oiseau.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Ah, c'est vrai que les oiseaux sont des cons. D'ailleurs, ils le payent assez cher dans l'exposition. On les voit souvent épinglés comme des natures mortes. Mais ils sont pas les seuls, parce que dans son histoire naturelle, donc Mathieu Pot-de-Bonneville l'a raconté, Pline l'Ancien, d'une certaine manière, dit la rivalité entre Zeuxis et Parasios. Mais Parasios n'a pas dit son dernier mot. Il peint alors un rideau couvrant le tableau d'une façon tellement véridique que Zeuxis veut le tirer pour voir l'œuvre qu'elle semble cacher, et c'est l'arroseur arrosé. Voilà, c'est la question du dévoilement, justement. L'épilogue de votre histoire de faussaire, Delphine, c'est justement le moment où Guerra, qu'est-ce qu'il fait de ces faux? Ça existe quand même, il y en a quelques-uns qui accèdent à la beauté, non?
Des faux de Guerra, oui, ils sont conservés. Alors, la plupart des collectionneurs, lorsqu'ils se rendent compte de la supercherie, mettent les faux de côté.
Oui.
Parce qu'il y a la honte, évidemment.
Et la muse de Cortone, par exemple. Ça, c'est pas Guerra. Ça, oui. C'est pas Guerra, mais quand même, ça, c'est un
faux. La muse de Cortone.
Qui, dévoilée comme faux, reste quand même.
Reste une icône, en fait.
Oui, c'est ça.
De la ville de Cortone. Oui, effectivement, elle est présentée au musée. C'est une des pièces maîtresses de l'Académie étrusque de Cortone. C'est une peinture qui a été faite probablement pour imiter les peintures de Pompéi et pour donner autant de prestige à la ville de Cortone qu'on a reçu Pompéi par la découverte des peintures. Et une fois la supercherie dévoilée, la muse de Cortone est restée quand même dans le musée.
Il y a quelque chose qui est intriguant aussi dans cette histoire, Mélisse de Kerangal, c'est la façon dont s'achève l'exposition à Marmottan par le camouflage. Et vous êtes arrêté devant une photo d'un pigiste de Paris Match, je crois, qui s'appelle Daniel Camus, qui couvrait la guerre d'Indochine, on est en 1954, et on voit des soldats français serpentés péniblement dans la jungle, le retour dans la jungle, tel est le titre du cliché. Ils sont presque indiscernables.
Là, il y a une espèce de fusion qui s'opère entre la colonne de soldats. Donc le tableau s'appelle « Le retour dans la jungle est aussi pénible que l'aller, la montée est dure sous le soleil ». Donc c'est une photographie d'un reportage qui a été intitulé « Coup de main sur les positions vietmines au nord de Dien Bien Phu ». Et on voit effectivement, donc ça illustre cette histoire de camouflage, c'est comment donc la photographie elle est en noir et blanc. Et on a dans cette jungle une colonne d'hommes qui serpentent et qui se fondent totalement dans les feuilles, dans le feuillage, dans la jungle. Alors là, il y a quand même peut-être moins une histoire de dévoilement que de quelque chose qui nous est révélé par l'attention, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui se donne comme une image finalement végétale, en fait, est une image non pas de représentation d'une nature, d'une forêt, etc., mais un tableau, enfin une image de la guerre. Et l'image change évidemment complètement de sens à partir du moment où on identifie ces hommes en file indienne, casqués, portant leur paquetage et en tenue de camouflage au sein de la jungle. Là, il y a une espèce de bascule de l'image, et cette idée de bascule, on pourrait peut-être quand même la penser également en regard de cette notion de dévoilement ou d'apparition ou de révélation. C'est aussi ça que permet le trompe-l'œil, c'est de faire aussi apparaître des choses et qui n'étaient pas forcément évidemment discernables au premier regard, ce fameux premier regard. Et c'est cette peinture en deux temps, en fait, là il s'agit d'une photo, mais qui est pour moi, dans mon idée, enfin selon moi aussi, une photo en deux temps, c'est-à-dire une surface qui dit quelque chose, et puis quand on s'approche, quand on la regarde mieux, et effectivement quand on lit le titre aussi, on voit totalement autre chose.
Bon, je crois qu'il est temps de faire appel à la police de la vérité, c'est Dépêche Mode qui joue ça en 1990. Sophie Crass, bonjour.
Bonjour.
Bon, bah là, je pense que la règle du jeu, elle est claire. Hein. À chacun son trompe-l'œil. Vous vous êtes arrivée avec quoi ?
Alors, je suis arrivée avec une œuvre qui se trouve dans les collections du musée de l'Université de Yale, aux États-Unis. Alors, dans la pure tradition du trompe-l'œil, cette œuvre transforme la toile peinte en une étroite boîte de bois vitrée sur le devant. L'illusion est d'autant plus complète que les bords latéraux de cette toile sont également peints pour imiter sur les côtés des planches de bois brutes, faisant du tableau un objet tridimensionnel qui n'était pas fait pour être encadré.
Bon, jusque-là, c'est assez habituel. Hein.
Oui, mais c'est le contenu de cette boîte en trompe-l'œil qui paraît aujourd'hui un peu incongru. Elle est à demi-pleine de cacahuètes. Cacahuètes, ouais. Entières, dans leur coque, dont quelques-unes débordent même à travers la vitre brisée et semblent prêtes à tomber sous l'effet de la gravité. Une étiquette en trompe-l'œil, glissée sous la plaque de verre brisé, indique « échantillon gratuit, essayez-en une ». Le tableau joue sur la pulsion à se servir, en même temps que sur la conscience, évidemment, du caractère doublement trompeur de cette invitation. Les cacahuètes ne sont qu'une image. Et serait-elle réelle, on se couperait les doigts sur le verre brisé à tenter de les attraper. L'œuvre est signée d'un certain S.S. David. Et on sait maintenant que le trompe-l'œil de cacahuète était chez lui une véritable spécialité. Il en a peint au moins une vingtaine dans les années 1880-1890. Il a fallu un certain temps, en fait, pour identifier cet artiste, car ce maître faussaire avait aussi faussé son nom. Il peignait sous pseudonyme. En effet, De Scott Evans, car c'était ça son vrai nom, aspirait à bien autre chose qu'à être un peintre de cacahuètes. Ce natif de Boston était allé se former en France, dans l'atelier du très académique William Bouguereau, respectable officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut. Et auprès de lui, De Scott Evans avait parfait sa maîtrise de la peinture d'histoire et des grands portraits, avant de rentrer au pays pour y faire carrière. Hélas, malgré quelques tableaux remarqués et même un portrait commandé par le président des États-Unis, James Garfield, il ne pouvait apparemment pas vivre de sa peinture et il pratiqua donc le trompe-l'œil comme une sorte de gagne-pain sous des noms d'emprunt. Mais avec une ingéniosité et un talent tel qu'aujourd'hui, si on le connaît encore, c'est bien pour ses étonnantes peintures de cacahuètes plutôt que pour ses plutôt banales peintures académiques.
Alors, je crois pouvoir me faire quand même l'interprète du désarroi collectif. Pourquoi diable des cacahuètes, Sophie Crass ?
Pourquoi des cacahuètes ? Alors, il faut savoir d'abord que les clients de la peinture de trompe-l'œil aux États-Unis à cette époque n'étaient pas les grands collectionneurs fortunés qui, pour la plupart, regardaient avec un certain mépris cette peinture censément ludique et facile. Les acheteurs étaient plutôt des commerçants, épiciers, tenanciers de saloons, et les œuvres étaient souvent exposées dans ces lieux de commerce. Donc, présenter des trompe-l'œil de cacahuètes dans un lieu destiné à la vente de fruits secs, en détail ou en gros, c'était redoubler le clin d'œil à la réalité, puisqu'on pouvait réellement se voir offrir un échantillon gratuit de cacahuètes avant de décider d'un achat. Mais pour autant, cette peinture n'est pas aussi prosaïque ou anodine qu'il peut y paraître. Dans les années 1880, la culture de la cacahuète explosait dans les États du sud des États-Unis. Jusque-là, elle avait été massivement importée d'Afrique de l'Ouest, principalement pour faire de l'huile pour l'industrie. Mais à la faveur de nouvelles mesures protectionnistes, la cacahuète commença à être plantée et commença à être promue comme un produit national avec sa déclinaison alimentaire, le beurre de cacahuète.
Voilà.
Bien sûr. Le négoce de la cacahuète prit alors des dimensions importantes. Dès 1857, les journaux de l'État de Virginie, par exemple, commençaient à publier quotidiennement la cotation de la cacahuète à la bourse de commerce. L'échantillon de cacahuètes dépeint par De Scott Evans n'est donc pas seulement affaire de gourmandise, mais aussi d'appât du gain, à l'heure où la cacahuète pouvait représenter une manne commerciale sur laquelle miser. En ce sens, cette peinture est en fait assez proche des peintures de billets de banque, également célèbres à l'époque. On peut en voir des exemples dans l'exposition de Marmottan. des peintures d'argent si parfaitement imitées qu'elles avaient valu à leurs auteurs la surveillance des services secrets américains chargés de la lutte contre la contrefaçon.
Ouais, alors donc là, on retrouve un petit peu, Sophie Kras, votre dada, hein, la valeur de l'art et le rapport entre justement la culture visuelle et les mutations, là, en l'occurrence, du capitalisme américain à la fin du 19e siècle.
Et oui, vous m'avez comprise. Ça nous parle de fluctuations monétaires, de droits de douane, de nouveaux marchés en expansion, mais aussi de retournements de fortune. Et le verre brisé et coupant dans la peinture d'Evans avait sans doute une valeur d'avertissement contre les espérances de gains démesurés de ce capitalisme commercial et spéculatif.
C'est intéressant ça, Mélisse de Kerangal. Merci beaucoup, Sophie Kras. C'est intéressant parce que vous êtes aussi une écrivaine, alors des vocabulaires techniques, mais aussi des aventures industrielles. Hein,
c'est... Oui, je trouve que c'est passionnant de... en fait, ce que vient de dire Sophie Kras, c'est effectivement tout le cheminement à la fois intellectuel, mais aussi sensible que l'on a devant une œuvre, effectivement, qui nous conduit en fait à un tableau assez politique, en tout cas qui émet une critique sur le qui est un tableau d'une critique d'un système capitaliste, en tout cas qui se présente comme une mise en garde. On peut se blesser, on peut s'y blesser. Et oui, ça m'intéresse beaucoup.
Delphine Morana-Burlot, vous aussi, lorsque vous étudiez les peintures antiques telles que les faussaires les réinventent, finalement, ben on est aussi à un moment clé de l'histoire de la valeur de l'art à la fin du XVIIIe siècle.
Oui, complètement, parce que le marché de l'art et des antiquités est en expansion. Rome est le centre d'échange des œuvres d'art, là où se retrouvent ce qu'on appelle les grands touristes, les collectionneurs. Et les faussaires l'ont bien compris, puisqu'il y avait ces fausses peintures antiques, mais il y avait aussi la vente de faux bronzes, de fausses monnaies.
Alors Sophie, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a dit là? Vous avez les invités, ils sont pour vous.
Ouais, j'ai écouté avec une grande passion et ça m'a beaucoup frappé de voir le trompe-l'œil chez vous discuter comme avant tout comme une forme artisanale, comme une maîtrise technique, une maîtrise de la main. Ça m'a frappé parce que finalement au XXe siècle, le trompe-l'œil n'est pas seulement artisanal, c'est aussi une production industrielle avec les matériaux synthétiques, avec les nouvelles techniques de moulage. Finalement, n'importe quel objet peut ressembler à n'importe quoi. Et je me suis demandé finalement à quoi ressemblerait un monde où tous les objets ressembleraient à autre chose que ce à quoi ils sont ressemblés. Ils sont censés, pardon, ressembler. Et ça m'a fait penser au film de Jacques Tati, Playtime, dans lequel le pauvre monsieur Hulot se trouve complètement perdu dans un monde où les objets ne ressemblent pas à précisément leur fonction. Donc les portes en faux bois claquent sans faire de bruit, les dalles en faux marbre se décollent et s'accrochent aux chaussures, les pieds de lampe ressemblent à des barres de bus et les poubelles ressemblent à des colonnes à l'antique grecque.
Oui, les colonnes à l'antique, évidemment, il y a dans ce jeu de la vraisemblance et de la feinte, Delphine, cette question du justement aussi de l'habitat, aussi du décor, qui est véritablement le cœur de votre travail.
Oui, oui. Oui, il y a cette question du décor, de l'ouverture du mur aussi vers autre chose. Et puis, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du dévoilement. Alors, la peinture de cacahuète m'y fait penser. On a l'impression aussi de voir un châssis retourné, une peinture qu'on verrait par le revers. Et ça, on le retrouve beaucoup à Marmottan. Et sans doute qu'il y a cette question de l'attente aussi dans le trompe-l'œil. On a aussi de voir la peinture parfaite, mais qui est côté mur, en réalité.
Mélisse de Kerangal, on a vu, c'est vrai, beaucoup d'objets. Et d'objets qui deviennent autre chose qu'eux-mêmes. Ce qu'il y a très peu, vous l'avez dit déjà, dans ces trompe-l'œil, c'est la figure humaine. Elle est, au fond, ramenée de l'autre côté, depuis le regardeur, qui donne sens et forme à cette illusion. Pourtant, aujourd'hui, évidemment, avec le numérique, je dirais qu'il y a une nouvelle frontière du faux qui s'ouvre de manière vertigineuse.
Oui, absolument. Je pense que c'est pas seulement, il est plus seulement question d'excellence justement technique liée à la main de celui qui du fabricant de trompe-l'œil, mais on est avec aujourd'hui avec des logiciels qui permettent justement de retravailler la figure humaine afin de la rendre ressemblante à une personne connue. Alors, ce qui m'a pas mal intéressée. Bon, il y a le cas assez connu maintenant. Il y a pas mal d'articles qui ont été publiés sur la façon dont les studios MacGuff ont travaillé le visage de Dalida. Donc, c'est-à-dire vraiment pour produire vraiment un effet, alors pour le coup, de trompe-l'œil à partir d'un visage ressemblant, certes, mais pas exactement le même. Voilà, le déplacer vers ce qui est l'image de la chanteuse. Donc, ça, c'est assez troublant parce que pour le coup, finalement, effectivement, la figure humaine se trouve aspirée, happée, elle aussi, par ce qui lui résistait, enfin, ce auquel elle résistait jusque-là, c'est-à-dire le monde du trompe-l'œil. Mais pour moi, il y a une continuité qui est dans... justement cette notion de trouble, la notion d'étonnement, de trouble, que je trouve encore très 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 en jeu dans la façon dont les intelligences artificielles modifient aujourd'hui les visages jusqu'à les rendre effectivement ressemblants, voire quasi identiques à des visages existants, et ce qui va évidemment avoir un rôle important, notamment dans toute l'industrie du spectacle et de la façon dont on va travailler avec les visages des vedettes, des stars, etc.
Et votre héroïne, Paula Kars, travaille pour l'industrie du spectacle, hein, évidemment. Ouais. Elle fait même les décors d'Abemus Papam
à Cinecittà. Oui, ah, justement, oui. Ça reprend ce que disait Delphine, justement, sur l'utilisation des trompe-l'œil. Une des premières utilisations, c'est justement cette notion de décor, en fait, hein. D'instaurer des lieux de fiction, des lieux qui vont précisément être créés pour raconter des récits. Hein. C'est ça aussi qui est très intéressant dans la question du décor, c'est que c'est le lieu d'où se déploie le récit.
Mais vous, Delphine Morana-Burlo, dans votre pratique, puisqu'on l'a dit, vous n'êtes pas seulement historienne, mais praticienne de la restauration de la peinture ancienne, ça change quelque chose, le numérique, ou d'une certaine manière, votre métier continue à ressembler à un roman de Mélisse de Kerangal?
Alors le numérique, évidemment, on l'a intégré au métier pour prendre des mesures, faire les constats d'état, noter les altérations sur faire des relevés, mais dans la pratique, on reste avec une palette, un pinceau, des mortiers, comme dans le roman de Mélisse.
Comme dans le roman et comme aussi pour vos héros, si j'ose dire, vos faussaires du XVIIIe siècle, qui étaient quand même des amoureux de la peinture aussi.
C'était des amoureux de la peinture et ils se confrontaient aux peintres anciens, en fait, en faisant défaut. Parce que si leur œuvre passait pour antique, ils avaient réussi à se mettre dans ce panthéon des peintres antiques.
Et donc, ce qu'ils travaillaient aussi, c'est un trouble dans la temporalité, dans la visibilité, mais aussi dans la temporalité. Et puis, il y a autre chose, Sophie Grasse, c'est cette question, on n'en a pas parlé, mais cette question du kitsch. Au fond, on est bien obligé d'y penser quand on visite tous ces trompe-l'œil de la collection Marmottan et puis de l'exposition maintenant. Mais enfin, il y a quand même au départ un noyau de collection, hein, autour de Boilly, justement. C'est ce tremblement de la valeur, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. On en a parlé, le trompe-l'œil a été quand même depuis très longtemps associé à une forme de mépris social, puis au mauvais goût. Et je dirais d'autant plus à partir du moment où les objets en trompe-l'œil justement ont pu se créer industriellement. Et où le trompe-l'œil a commencé à prendre une place dans le panthéon du kitsch. Je pense que ça a été particulièrement fort dans l'histoire de la théorie du design et de l'architecture, où l'idée que la forme doit suivre la fonction, que l'aspect d'un objet doit se déterminer par son usage et puis par son matériau, est très très importante. Évidemment, le trompe-l'œil vient complètement contredire ça, puisque sa forme, voilà, est une négation à la fois de sa fonction et de son matériau. Donc c'est vraiment un crime de lèse-majesté pour les designers pendant toute une partie du XXe siècle. Et d'ailleurs, on trouve plusieurs exemples assez savoureux de trompe-l'œil dans le livre de Gillot d'Orfles que je vous conseille, qui s'appelle Le Kitsch, un catalogue raisonné du mauvais goût. Et on trouve plusieurs objets trompe-l'œil assez cocasses.
Et puis, il y a la question des matières, hein, des matières synthétiques, et puis aussi du moulage. Parce qu'avec le moulage, tout peut ressembler à tout, Mélise de Kerengal.
Oui, alors là, il y a le travail de Georges Didier Berman, justement, qui est vraiment passionnant sur justement les empreintes. Oui, tout peut ressembler à tout. Alors après, il y a quand même toujours, pour moi, il y a quelque chose qui résiste à cette espèce de dématérialisation de tout. C'est précisément que on est face à des procédures. Enfin, le moulage, il y a également des codes, des techniques. On l'a peut-être pas encore assez dit, mais sur le trompe-l'œil tel qu'il se voit. Il se présente à Marmottan, on est tout de suite en fait dans une peinture de genre extrêmement codée. Et c'est vrai que ces codes, ils sont assez puissants pour avoir fixé quand même des pratiques. Et je trouve que le moulage est également prend place un petit peu dans cette filière-là, dans ces codes-là. Oui, la question du moulage et de l'empreinte, elle est extrêmement troublante. Alors là, presque par plein de biais, hein, c'est aussi la question du dépôt, de qu'est-ce qui va se déposer, du contact, de la porosité. Et je trouve que ça reste quand même, pour moi, un champ fascinant. En fait,
c'est aussi une histoire romaine, hein, de ressemblance par contact, par définition. Delphine Morana-Burlot, c'est comme ça, dit Pline, que la peinture a commencé.
Oui, c'est la peinture aurait commencé. Enfin, il y aurait eu le dessin fait à partir du nombre dont la trace est marquée par une amoureuse sur un mur. Et puis, l'imitation des marbres par les stucs et ces stucs moulés qui vont composer des corniches de manière assez rapide grâce à l'emploi des moulages.
Sophie Crasse.
Ah oui, moi je pense au moment où on se détrompe, c'est-à-dire au moment où on saisit cette clé. En fait, c'est un tire-bouchon, cette éponge, en fait, ce hérisson qui est en fait une éponge, ce presse-livre qui est en fait un livre. Il y a vraiment toujours ce moment en fait où surgit la vérité de l'objet en quelque sorte et qui reste le moment de sensation le plus plaisant.
Eh bien, merci. Il y a eu un moment de sensation pas du tout plaisant, c'est quand c'est terminé, mais là, c'est terminé. C'était Allons-y voir. Merci à vous toutes, Mélise de Kerengal, Delphine Morana-Burlot et Sophie Crasse. Les références de vos ouvrages seront à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier et Jeanne Agrapart à la prise de son, Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.